Bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 15 février 2025. On a eu une semaine assez spectaculaire, j'ai envie de dire. Encore une fois, on est toujours sous le signe de Trump. Depuis le 26 janvier, on ne parle que de lui, plus que de ça. Il est en train de cacher tout le reste, d'enrober tout le reste. Finalement, on est obsédé par ce qu'il va nous dire, ce qu'il pourrait nous dire, ce qu'il pourrait éventuellement faire. Pour l'instant, l'un dans l'autre, peu importe ce qu'il fasse, il y a plein de choses à critiquer sur ses décisions et sur la stratégie qu'il est en train de prendre. Mais par contre, pour l'instant, eh bien, les marchés sont plutôt contents puisqu'on termine la semaine en fanfare et on a presque eu l'impression que l'un dans l'autre, il avait, j'ai envie de dire qu'en gros, il a quand même réussi à cacher ce qui ne va pas parce que c'est vrai, on continue à avoir deux, trois problèmes sur l'inflation. Mais ce qui est assez fou sur l'inflation, on va en reparler tout de suite, c'est que finalement, les annonces de Trump, ce qui est en train de se passer autour, j'ai envie de dire, du niveau géopolitique, eh bien, on fait disparaître la problématique de l'inflation, puisque vous avez tout à fait bien compris, si les chiffres de l'inflation qu'on a eu cette semaine étaient sortis il y a 4-5 mois en arrière, je pense que le marché n'aurait pas terminé la semaine de la même manière. Alors on commence tout de suite avec le point de situation. Cette semaine a été riche en actualités, entre tensions commerciales, inflation qui fait des siennes, rebond boursier malgré tout. Ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est les quelques points à retenir de cette semaine. Et on commence tout de suite avec l'inflation américaine qui est quand même une espèce de douche froide. Mercredi, les chiffres de l'inflation aux States ont surpris tout le monde en s'affichant en hausse de 3% sur un an, alors que le consensus était quand même bien plus bas. En gros, on peut quand même commencer à se dire que la Réserve fédérale, la Fed, qui espérait baisser ses taux un peu plus tôt cette année, ben, ils vont devoir attendre de nouveau, probablement plutôt dans la deuxième partie de 2025 pour le faire, peut-être même 2026, et pourtant, et les marchés n'ont pas bronché. Alors, ça a un petit peu bougé sur les obligations, puisque le rendement des obligations US, des bons du Trésor à 10 ans, s'est tendu à 4,63. Qu'est-ce que ça signifie pour nous pour l'instant? Ben, moins d'espoir de baisse des taux, ça c'est clair. Un dollar qui pourrait continuer à s'apprécier. Des marchés actions qui, bien qu'impactés à très court terme, tiennent relativement bon parce que les chiffres trimestriels sont quand même globalement bons. Ça, on oublie trop souvent de le dire pour l'instant. Et Trump qui relance la guerre commerciale ou pas. Ben, bon, on sait tous que Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Mais pour l'instant, on s'en fout. C'est un coup de pression qui aurait pu créer une panique boursière en début de semaine, mais non. Pour l'instant, les investisseurs ne voient qu'une simple tactique de négociation et pas du tout une escalade. On a vu aussi qu'il a mis en place ses tarifs de réciprocité, mais là aussi, on s'en fiche. Tout ce qu'on voit pour l'instant, c'est que est-ce que Trump est en train de mettre en place, eh bien, ça a donné entre autres un coup de main aux actions du secteur de l'acier, puisqu'on a vu cette semaine que Cleveland Cliff a explosé, Steel Dynamics a explosé. Enfin bref, on voit que pour l'instant, c'est plutôt favorable à lui et on parle de protectionnisme. Qui est en train de se mettre en place, mais enfin, l'un dans l'autre, peu importe, eh bien, ça continue d'aller dans la bonne direction pour les marchés, puisqu'on a l'impression que peu importe ce qui va nous sortir, à la fin, de toute manière, le marché le prend plutôt bien. Et même les choses qui pourraient créer une certaine tension, eh bien, là aussi, on l'interprète comme étant une plutôt bonne nouvelle, ce qui fait que, là, l'un dans l'autre, les droits de douane de Trump ne font pour l'instant plus aucun effet. La grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à un moment donné ou un autre, ils vont recommencer à faire de l'effet? S'ils continuent à sortir des nouvelles restrictions, des nouvelles problématiques au niveau des droits de douane, est-ce qu'à un moment donné, le marché va craquer? Difficile à dire, bien sûr, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Autrement, Powell a témoigné, on en a parlé cette semaine. En gros, Jérôme Powell, qui était devant le Congrès et devant une autre commission des finances, il n'y avait rien de spécial dans son discours. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était complètement lissé. Pas de surprise, rien de spécial. Tout ce qu'il a refusé de faire, c'est de répondre aux questions liées à la politique, justement liées à son désagrément au fait qu'il ne s'entende pas forcément avec Trump. Il a aussi insisté sur le fait qu'il n'allait pas du tout baisser les taux, qu'il n'y avait pas d'urgence pour l'instant. Enfin, pas du tout. Il le baisserait quand il y aurait une nécessité, mais pour l'instant, il n'y avait pas d'urgence. En gros, le patron de la Fed a résumé la situation en disant que les indicateurs récents suggéraient que l'activité économique a continué de croître à un rythme soutenu. Le PIB était en croissance de 2,5% en 2024 et c'était soutenu par la résilience résilience des dépenses de consommation. Et donc, il n'y a donc pas d'urgence à baisser les taux. Le marché n'attendait rien d'autre, si ce n'est que la probabilité d'une baisse des taux en 2025 est en train de fondre comme neige au soleil. Et si on tient compte du CPI ou du PPI, c'est même plus de la neige qui fond, on est déjà en pleine sécheresse estivale. En gros, les taux qui pèsent en 2025, c'est à peu près aussi probable que de croiser des dahus sur les pistes de ski en hiver. En été aussi d'ailleurs. L'Europe autrement, pour l'instant, on ignore la tempête et on continue de battre des records. Alors malgré les incertitudes sur les droits de douane, le DAX, l'Eurostox, le CAC ont terminé la semaine en boulet de canon, pas forcément sur la thématique des droits de douane, mais alors déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le début d'année, les entreprises européennes attirent les investisseurs parce que les valorisations sont plus basses qu'aux États-Unis, donc on essaie d'investir dans des trucs qui sont moins dangereux. La Banque Centrale Européenne, elle, continue de montrer sa volonté de vouloir baisser les taux, contrairement à la Fed. Donc là, il y a aussi un écart majeur avec ce qui se passe aux States. Et on a surtout, depuis quelques jours, vous l'avez entendu, un espoir d'accord de paix en Ukraine qui a poussé tout ce qui est énergie à la baisse, ce qui a boosté les valeurs industrielles européennes. En Suisse, eh bien, le SMI a terminé la semaine en hausse à 12 853. Malgré les craintes sur l'inflation américaine, les investisseurs restent relativement confiants parce que les résultats des entreprises sont globalement solide. Et l'inflation en Suisse est restée sous contrôle à 0,4% en janvier. Et puis, on retient bien sûr, comme d'habitude, que la Suisse joue toujours son rôle de valeur refuge en Europe, ce qui attire quand même pas mal d'investisseurs enfin. Mais le SMI a cependant rejeté les plus hauts historiques en fin de semaine, tout comme l'a fait le CAC 40 à Paris. Moralité, en gros, et pour l'instant, ce qu'on peut dire sur cette semaine, c'est qu'on a assisté à un retour en grâce des actions européennes face aux valeurs américaines. Enfin, pour le moment, on notera encore qu'en Suisse, les prix à la production et à l'importation ont cru en janvier, étaient en hausse de 0,1% par rapport à décembre. Mais bon, ils affichent net un repli de 0,3% sur un an. Oui, je sais, ça vous change pas la vie et je vous dis pas comment moi je me sens mieux en revanche. Et puis, autrement alors, toujours au chapitre macro, en Angleterre, le PIB a progressé de 0,1% au quatrième trimestre. En Allemagne, l'inflation a été confirmée à 2,3% en janvier, reprenant sa trajectoire baissière. Et en Suisse, eh bien, dont je vous l'ai dit, elle était à 0,4% sur janvier contre 0,6% en décembre. Du côté de l'Ukraine, vous l'avez entendu, Trump est en train de secouer la diplomatie mondiale, donc il devrait rencontrer Vladimir Poutine. Se sont déjà parlé la semaine dernière avec la possibilité de négocier immédiatement la fin du conflit. Alors les Européens, ils sont pas contents du tout parce qu'ils veulent participer aux discussions, mais pour l'instant, ils ont pas l'air vraiment concernés par les deux géants, on va dire. Le marché a immédiatement réagi avec un pétrole en baisse, qui anticipe un retour déjà éventuel des flux russes. Alors la grande question, c'est qu'est-ce que ça pourrait changer, cette fin de guerre éventuellement. Alors si des négociations venaient à aboutir, ça pourrait donc alléger l'inflation énergétique en Europe et relancer encore une fois la croissance. Mais bien sûr, c'est encore un peu trop tôt pour crier victoire, vu que les Européens sont en train de hurler à la mort parce qu'ils ne sont pas impliqués dans les négociations et que, selon les stars de la politique européenne, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, un accord trop rapide serait une capitulation pour l'Ukraine et très mauvais pour l'Europe à long terme. Alors, je crois pouvoir dire honnêtement que Poutine et Trump s'en foutent totalement de leur avis, mais enfin bon, on verra ça ces prochains temps. Autrement, du côté des marchés obligataires, avec les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu, les rendements des obligations ont pas mal bougé cette semaine. Le 10 ans américain a touché les 4,63 mercredi, avant de retomber à 4,45 vendredi. En Europe, le spread franco-allemand est passé sous les 70 points, une première depuis juin 2024. Alors pourquoi est-ce que c'est important? On sait bien que ces taux influencent plus ou moins tout, les coûts de financement des entreprises, le marché immobilier, les décisions des banques centrales. Et pour les investisseurs, ça veut dire moins d'espoir d'une descente rapide des taux pour l'instant. Et conclusion, en gros, de cette semaine, c'était très agité, mais l'un dans l'autre quand même très optimiste. L'inflation est trop haute, Trump joue au poker avec le commerce, et pour l'instant, les marchés boursiers font complètement fi des mauvaises nouvelles. En gros, ils s'en foutent totalement. Et les marchés continuent de parier sur une économie mondiale qui tient bon, malgré les incertitudes, et surtout, ils se foutent complètement des nouvelles économiques tant que Trump continue de taper sur le tambour pour ranimer l'économie mondiale. Du côté des performances de la semaine, alors vous le voyez, c'est l'explosion sur le Hang Seng qui prend 7%, le DAX qui prend 3,33%, le SOX qui reprend 3,03%, le Dow Jones de 84, le Nasdaq de 58, tout est dans le vert. Le SMI plus 1,8% sur la fin de la semaine, le Bitcoin prend 1%, C'est pas l'euphorie totale, mais bon, ça monte, tout est dans le vert. Et vous voyez que finalement, le seul truc qui est tombé cette semaine, c'est le pétrole qui perd 0,3% sur la semaine. La raison de la baisse du baril, bien sûr, eh bien, c'est les tensions qui pourraient diminuer, voire disparaître entre la Russie, enfin la guerre qui pourrait se terminer entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, du coup, faire baisser cette, comme je le disais il y a quelques instants, cette inflation énergétique. Du côté du SMI, vous le voyez, il y a du rouge un peu sur la semaine, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il y a beaucoup de vert, hein, le Richemont qui prend 4,5%, ABB 3,10%, Holcim plus 3,44%, Logitech plus 4,6%. Nestlé, évidemment, qui est la star de la semaine, plus 6,43. Et vous avez à côté de ça, bah, Swisscom qui a raté ses résultats. On va y revenir. Geberit qui prend 5,25%. Alors pourquoi Geberit prend 5,25% cette semaine? Bah, je vous parie qu'ils sont déjà en train d'anticiper qui va profiter de la reconstruction en Ukraine. Donc forcément, ils devraient en bénéficier sur le long terme. Sika plus 4,76%. Partners Group plus 2,63%. Et puis vous avez Givaudan qui prend 5,43% également. Donc voilà, encore une fois, une relativement bonne semaine en termes de performance sur le SMI. Du côté des graphiques, alors vous voyez, le SMI, c'est tout bonnement du délire. Difficile de trouver quoi que ce soit à dire sur un graphique comme ça, c'est vertical. Hein. Vous voyez que la tendance est tout simplement délirante depuis quelques semaines. Voilà, il fallait simplement se mettre long à Noël et puis attendre. SMI qui avait rien foutu depuis des semaines se retrouve aujourd'hui dans une tendance haussière qui est vertical, trop vertical pratiquement, parce que ça va beaucoup trop vite et à un moment donné ça va s'arrêter. Alors vous voyez que si on regarde le reversal qu'on a fait en fin de semaine sur le SMI, eh bien on se retrouve exactement sur les niveaux des plus hauts historiques, plus ou moins, puisque les plus hauts historiques se situent ici. Donc on va mettre une tendance depuis là, le point haut, et vous voyez qu'on est pile dessus et que finalement, eh bien, on s'est arrêté juste dessus. Donc on n'a pas terminé au plus haut sur la Suisse, mais on n'en est plus très loin. Donc il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Évidemment, quand on voit ce genre de configuration sur la Suisse, si les marchés continuent à se comporter comme ça, vous voyez ce qu'on va se faire dans l'autre sens sur le marché suisse. C'est tout bonnement spectaculaire. Un truc, un marché dont plus personne ne voulait. On en a assez parlé ces derniers temps. Souvenez-vous quand même, on a beaucoup souffert dans cette période où il ne se passait strictement rien, l'un dans l'autre sur le SMI, où toutes les actions étaient dans le coma. Et là, tout d'un coup, vous avez le réveil de beaucoup de monde. On va le voir tout à l'heure, mais du coup, les gros noms sont en train de se réveiller. Et c'est la course au sac pour aller chercher les nouveaux records sur les indices boursiers suisses. Et donc, c'est juste incroyablement spectaculaire. Là, c'est clair qu'on bénéficie un peu du retour des défensifs, mais le SMI est tout bonnement impressionnant. Aux États-Unis, on est juste sur les plus hauts historiques. On va dire qu'on termine au plus haut de tous les temps sur les États-Unis. Je crois que ça ne joue pas à grand-chose, mais enfin, peu importe. On est dessus, on cherche les plus hauts. On est en train d'essayer de voir si on arrive. Bon, là, c'est clair, il faut qu'on casse, hein, il faut qu'on aille chercher plus haut maintenant pour entamer une nouvelle session, une nouvelle dynamique haussière. Vous voyez qu'on est dans ce triangle que je vous montrais l'autre jour déjà. Si on revient là-dedans, on va de nouveau se traîner encore un moment. Il n'y a pas de danger à court terme, mais on va se traîner. En revanche, si on arrive à casser, on devrait avoir une accélération qui devrait représenter une certaine amplitude. Mais bon, ça passera pas non plus monstrueux. Il faut dire qu'on est vachement haut et vachement cher. Mais il y a 250 points à gagner encore. Si on arrive à casser, on devrait aller chercher depuis là les 6300, 6350 sur le S&P 500 ces prochains temps. On verra les résultats. Hein. Vous savez que dans quelques jours, il y a Nvidia, mais ce sera pour la semaine d'après, durant les vacances de ski des Genevois, et qu'il y aura les publications de Nvidia. Et on verra comment ça va nous emmener. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a de nouveau un gros optimisme qui souffle sur les marchés américains. Le Nasdaq, même configuration. Vous voyez, on est aussi au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq. Donc, on est en train de préparer les cassures. Alors, c'est vrai qu'en termes de valorisation, je le disais en introduction, les actions européennes sont moins chères en termes de valorisation que les Américains. C'est pour ça qu'ils ont peut-être plus de peine à démarrer. Mais en même temps, si ça démarre, il y a plus de croissance, il y a plus de dynamique dans les actions américaines. Donc on risque d'accélérer beaucoup plus par la suite, surtout quand on voit la verticalité des indices européens et de l'indice suisse. En ayant moins le Nasdaq, bah, de nouveau, il faut qu'on sorte. Hein. Il faut clairement qu'on arrive à sortir de cette résistance ici pour aller chercher plus haut. Mais là aussi, encore valorisation, pas bon marché. Et puis même si aujourd'hui, on prend relativement bien les tensions commerciales américaines, parce qu'on s'en fout surtout, Si jamais il y a quelque chose de mauvais qui vient dans l'autre sens, ça peut aussi se retourner très vite. Mais enfin, pour l'instant, l'optimisme est de mise, donc on ne va pas peindre non plus le diable sur la muraille. Mon socks adoré, encore et encore, hein, donc je vous le dis et je vous le répète, c'est un indice qui est un indicateur avancé, donc quand lui commencera à casser dans une direction ou dans une autre, eh bien on sera plutôt satisfait. Pour l'instant, on est toujours dans un range, hein, vous voyez que si les autres indices sont en train de tester les plus hauts historiques, le socks est encore très très loin, puisqu'on est à les plus hauts historiques frise les 6000 et que pour l'instant on se traite à 5160. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Quand vous regardez un petit peu la performance du SOX aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est pas explosif. Bon, on a quand même pratiquement hausse de 3%, mais je veux dire, c'est pas monstrueux sur le chart. On a beaucoup de chemin à faire pour aller chercher cette résistance. Il va falloir trouver de la dynamique. Et la problématique, c'est qu'à l'intérieur des semi-conducteurs, vous avez déjà pas mal de titres qui ont bien performé. Intel qui a explosé la semaine dernière. Nvidia qui continue de monter à coup de 3% par jour. Donc vous avez les gros noms qui sont en train de tirer d'un côté, mais vous avez quand même d'autres sociétés qui, elles, sont en train de souffrir. Donc on voit que le tissu économique des semi-conducteurs n'est pas parfait partout. Vous avez les grosses Bertha qui vont plutôt bien, mais vous avez beaucoup d'autres qui souffrent des restructurations du secteur, ce qui font que finalement le SOX est un peu en retard. Et on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus clair au niveau des indications du SOX. Si on se base sur le principe que le SOX reste un indicateur avancé, eh bien pour l'instant, ça voudrait dire tout simplement que les marchés ne sont pas prêts à casser à la hausse ni à la baisse d'ailleurs. Du côté de l'Europe, c'est du délire. Alors ça se passe de commentaires. Le DAX, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme analyse technique dessus? Ce machin-là, c'est vertical. Ça a pris quasiment 3000 points depuis le début de l'année. Donc du coup, que dire? Ça monte beaucoup trop haut, beaucoup trop vite. Et à un moment donné, il va y avoir un reversal qui risque de faire très très mal. Maintenant, quels seront les catalystes? Sachant qu'aujourd'hui, tout le monde veut de l'Europe, soudainement. Eh bien, c'est pas simple à parier, c'est pas simple à prévoir et pas simple à anticiper. Mais autant on dit never catch a falling knife. Si vous retournez ce graphique dans l'autre sens, eh ben vous aurez l'impression quand même que le couteau, il est en train de tomber très très vite. Et que tant qu'il n'a pas réussi à trouver un point final pour se renverser, ça va être difficile. Donc le DAX cartonne. À un moment donné, la musique devrait s'arrêter. Mais pour l'instant, ça fait un moment qu'on trouve qu'il est beaucoup trop haut, beaucoup trop vite. Mais il ne veut pas arrêter de monter. Le CAC 40, pareil. On n'a pas réussi à battre les records cette semaine. On termine quand même relativement haut. Là aussi, hein, vous voyez que finalement, le CAC revient de très très loin, puisque fin de l'année dernière, on est à 7100. On est à 8178 en fin de semaine pour la clôture. Vous voyez quand même que c'est juste totalement impressionnant. Évidemment, toutes les actions prennent le relais. On a eu LVMH, on a eu Kering qui a publié ses chiffres cette semaine qui n'étaient pas terribles. Et finalement, le lendemain, on s'est tous dit oui, mais finalement, c'est quand même pas mal. Et le titre a explosé. Soggen qui a cartonné l'autre jour. Enfin bref, tout va plutôt pas mal. Plus toujours, évidemment, cette thématique. Oui, mais les actions européennes ne sont pas chères, donc on achète tout ce qui nous passe sous la main. Résultat, le CAC 40 est quasiment au plus haut de tous les temps aussi, mais là aussi, quand vous voyez la performance à très court terme, c'est tout simplement ahurissant. C'est trop vite, trop fort, trop intense. Et vous voyez, si on regarde un petit peu dans le passé, on a déjà eu ce genre de performances qui se sont dessinées début 2024, hein, vous voyez, puis ensuite on fait un top et hop! Changement de direction. Donc il faut faire juste attention parce que ce genre de verticalité, ça finit jamais bien. En tout cas à très court terme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter derrière, mais à très court terme, il pourrait y avoir quand même des prises de profit pour une raison ou pour une autre qu'on a de la peine à imaginer aujourd'hui. Alors, pas toucher les 3000, pas toucher les 3000, mais on s'en rapproche dangereusement, j'ai envie de dire. Vous voyez que l'or a fait des plus hauts historiques cette semaine. Il termine au plus mal, j'ai envie de dire, sur la semaine. Mais ça continue à être dans la tendance. Maintenant, attention, vous voyez quand même que c'est un tout petit peu cher dans les extensions ici. Donc à un moment donné, il peut y avoir une correction. Ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Si vous regardez les chiffres, on peut envisager un retour dans le pire des cas, mais tout le monde en achète, tout le monde veut de l'or, tout le monde parle que de l'or. Les banques centrales achètent de l'or à coups de millions de lingots, donc ça devrait continuer à monter. Pour l'instant, on se cherche, mais attention quand même à ce reversal en fin de semaine qui pourrait à court terme indiquer un petit peu de faiblesse. Et puis alors le pétrole qui va dans tous les sens. On a eu une semaine, on va dire, bicolore, puisque du rouge, du vert en début de semaine, du rouge en fin de semaine. on a eu clairement une situation sur le baril où tout d'un coup on s'est dit ah mais oui mais il va trouver des arrangements, le commerce va redémarrer, la croissance va repartir. Puis après on s'est dit ah ben il y aura plus de guerre en Ukraine, donc du coup il y a le pétrole russe qui va revenir sur le marché. Et résultat, on s'est repris une tarte. De toute façon, la volonté aujourd'hui du patron à Washington, de Donald Trump, c'est de renvoyer le pétrole au plus bas pour pouvoir permettre aux Américains de payer moins cher leur plein d'essence et donc redynamiser l'économie. Donc autant vous dire qu'on devrait continuer dans cette stratégie. Visiblement, on peut se dire qu'on va aller en direction des 68 sur le baril dans cet environnement, surtout si Poutine et Trump arrivent à trouver des arrangements. Mais on a une tendance haussière pour l'instant qui est toujours confirmée. Donc attention au niveau des 68 si on venait à les casser à la baisse, parce qu'après, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres pour aller de nouveau en direction des 60$ sur le baril. Les vedettes de la semaine en Suisse, donc SGS a publié ses résultats, ils ont amélioré leur performance l'an dernier, ils ont même annoncé des ventes records. Le groupe maintient ses objectifs à court et moyen terme et poursuit à un rythme soutenu son plan de croissance qui est basé sur les réductions de coûts et sur les acquisitions. SGS a publié des bénéfices supérieurs à ceux du consensus. Pour le reste, les ventes et la croissance organique ont été conformes aux attentes. Les ventes sont de 6,79 milliards en hausse de 2,6% par rapport à l'an dernier. Et le résultat d'exploitation est de 904 millions de francs suisses en hausse de 5,5%. A noter que dans la semaine, ils ont encore réalisé l'acquisition de la société italienne Stella Operazioni Doganali, renforçant ainsi ses opérations de facilitation du commerce en Italie et son réseau douanier en Europe. Vous le voyez, les résultats ont été salués par la critique. Or, le chart de SGS ne ressemble strictement à rien. Vous voyez des trous partout, il y a des gaps dans tous les sens. On est revenu sur les plus hauts dans la zone des 100 balles. Si vous regardez sur l'historique, on a encore bien du chemin à faire pour retourner tout en haut. Mais néanmoins, les chiffres étaient bons, ça a été relativement bien pris. D'un point de vue purement tendance, on est au moins dans une tendance haussière, ce qui est déjà pas mal. On a une hausse progressive, mais vous voyez que vu les mouvements quand même, on a de la volatilité potentielle. Le bas du canal se situe autour des 88 et le haut du canal est autour des 103. Donc attention, si on vient chercher passer au-dessus des 100 ces prochains temps, il y a eu 2-3 upgrades qui pourraient peut-être encore dynamiser un petit peu SGS ces prochains jours. Chez Landis & Gyr, le spécialiste zougois de la gestion d'énergie, eh bien, on a fait un profit warning. L'entreprise a une nouvelle stratégie et se détourne des activités de bornes de recharge, ce qui va entraîner la suppression de 200 postes. Le marché n'a pas trop aimé et le titre a perdu 22% la semaine dernière sur l'annonce. Du côté du chart, je crois que ça se passe de commentaires. Vous voyez que l'annonce a vraiment pas plu. Et donc là, on parlait tout à l'heure sur le DAX de Never Catch a Falling Knife inversé. Si vous prenez ce chart et vous le retournez dans l'autre sens, vous aurez l'impression que vous avez plus ou moins le graphique du DAX. Donc on peut se poser les mêmes questions. Aujourd'hui, Never Catch a Falling Knife, je pense qu'il faudra regarder à quel moment Landis & Gyr tentera de s'arrêter. Mais pour l'instant, c'est pas beau du tout. Et la pression vendeuse est énorme. On voyait que les derniers points bas qu'on avait faits correspondent à 2022 et à 2021. Même au Covid, on n'avait pas été si bas. Donc attention, parce que si on va s'établir en dessous des 49 francs suisses, vraiment de manière durable, c'est-à-dire que la porte est ouverte pour aller bien plus bas sur l'indice NGIR. AMS Osram a enregistré un chiffre d'affaires de 882 millions d'euros, en baisse de 3% sur l'année. La marge EBITDA ajustée de 150 millions d'euros est la même sur la période 2023, ce qui est un signe que la politique d'optimisation des coûts et de la société fonctionne plutôt pas mal. C'est surtout ce qui a plu aux intervenants. Le chiffre d'affaires de la division Lampes Systèmes a augmenté 18% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 275 millions. Et dans la division des semi-conducteurs, le chiffre d'affaires des opto-semi-conducteurs s'est élevé à 350 millions, légèrement plus faible que l'an dernier. Et surtout, AMS a tout de même réduit sa perte de moitié. Alors vous me direz, oui, mais c'est quoi un opto-semi-conducteur? Tu dis ça pour faire genre, mais en fait, t'en sais rien, tu sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est faux. Un opto-semi-conducteur, c'est un semi-conducteur capable d'interagir avec la lumière. En gros, ce sont des composants électroniques qui convertissent la lumière en électricité, comme les cellules photovoltaïques ou l'électricité en lumière, comme les LED et les lasers. Et toc, merci ChatGPT. Bref, ce qu'il faut retenir sur AMS, c'est que, comme le dit le management, ils sont prêts pour la croissance en 2025 et le marché était d'accord avec eux. Alors sur le graphique, d'accord, ça ne change pas grand-chose, mais vous noterez quand même que si on zoome dessus, vraiment fort, Voilà, on a quand même eu une relativement belle semaine. Alors c'est vrai que quand vous partez de 6,40, c'est pas très impressionnant sur le long terme, mais à court terme, là vous étiez à 10 jours, on était à 6,30, 6,40, et là on finit quand même la semaine à 8,87 avec un top à 9,14. Donc vous voyez que les gens sont en train de tenter quelque chose, hein, mais pour l'instant on a encore pas mal de chemin à faire si on veut croire que AMS Osram est de retour dans ses belles années. Belles années qui commencent quand même à dater un tout petit peu, parce que si on regarde les highs du graphique, les plus hauts, vous voyez qu'il faut remonter quand même passablement en arrière, beaucoup en arrière, avant de trouver des niveaux satisfaisants. Vous voyez qu'on a quand même un record à 441 en novembre 2017. Bon, bref, on n'y est pas encore, mais ça va un tout petit peu mieux. En tout cas, les chiffres étaient encourageants et le marché a plutôt bien apprécié. Les ascenseurs Schindler, donc ils ont le constructeur d'ascenseurs a annoncé un tassement de ses recettes en 2024, des recettes qui ont fléchi à 2,2% à 11,2 milliards de francs suisses. Plusieurs mesures ont quand même permis d'engranger un bénéfice net en forte hausse qui a franchi la barre du milliard de francs suisses. Et le titre Schindler était relativement bien recherché après la publication. Le groupe a soigné sa rentabilité l'année dernière et les actionnaires seront récompensés par un dividende en hausse. Et puis tout ce qui va être lié à la construction, s'il y a des espoirs d'amélioration du côté de l'Ukraine, va en bénéficier. Voilà, annonce de résultats plus guerre en Ukraine qui pourrait se régler. Vous voyez qu'il y a une accélération de la hausse sur Schindler qui revient quand même de loin. Hein. Puisque en 2023 on était beaucoup plus bas, mais vous voyez que pour l'instant la tendance se confirme et s'accélère, j'ai envie de dire. On peut largement espérer aller chercher encore un petit peu plus haut sur Schindler ces prochains temps, surtout dans cette thématique, je vous le dis, de reconstruction au niveau de l'Ukraine. Du côté de chez Nestlé, on a publié des revenus et une rentabilité en baisse l'an dernier, mais relevé le dividende et maintenu les objectifs pour l'année en cours. Les analystes ont salué les résultats qui ont quand même performé pas mal et qui ont rassuré les investisseurs, surtout avec la mise en œuvre du programme de réduction des coûts. Donc la croissance organique du géant de Vevey s'est inscrite à 2,2%, tandis que la croissance interne réelle, autrement dit le volume des ventes, s'est élevée à 0,8%, alors qu'elle était négative un an plus tôt. En plus du fait que les investisseurs étaient rassurés, on notera surtout que le soulagement venait aussi, on en a parlé avant-hier, c'est moins pire que ce qu'on pouvait craindre. Et comme je le disais dans la vidéo d'hier, on s'attend tellement plus à rien du côté de Nestlé que finalement, bah, les gens se disent que c'est pas mal. Vous le voyez sur le graphique, donc là aussi, vous connaissez le graphique par cœur. Hein. Si on va chercher très très loin sur Nestlé, eh bien, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot pour retrouver la superbe sur Nestlé. Mais néanmoins, bonne semaine et très très belle interprétation des résultats qui sont. Ok, pas extraordinaire, mais effectivement, on peut espérer quelques signes d'amélioration. Et aujourd'hui, on recherche quand même des titres défensifs avec de la valeur et des dividendes qui sont payés régulièrement, ce qui est plutôt le cas de Nestlé quand même. Chez Swisscom, c'était une sale semaine. Ils ont annoncé une baisse de 9,9% de leurs bénéfices en 2024, 1,54 milliard, plombé par 227 millions de coûts d'intégration et de transactions liés à l'acquisition de Vodafone Italia. Le chiffre d'affaires s'est établi à 11 milliards de francs, en légère baisse par rapport aux 11,07 milliards de francs de l'année précédente. Donc, grosse déception sur Swisscom pour cette année. Voilà, donc Swisscom qui termine au plus bas des plus bas, à 496 francs suisses. Difficile, bon, j'ai jamais été un monstre amoureux du titre, mais voilà, techniquement, on revient sur les supports, sur la zone des 500, support psychologique. On avait l'impression de vouloir redonner quelque chose, mais vous voyez que c'est toujours un titre qui est par tendance. Hein. Par moment, vous avez une tendance qui se dessine, une mauvaise nouvelle, bam, on revient, on essaie de reconstruire un truc. Là, on s'est fait un peu couper nos ailes dans cette tendance à court terme. Il y a encore quelques jours, ça allait bien. Et puis, retour à la case départ. Donc, il va falloir surveiller maintenant, savoir si Swisscom est capable de tenir encore une fois les niveaux de support et de ne pas aller s'établir en dessous des 500 francs suisses pour voir si ensuite il y aura une tendance qui va se dégager. Normalement, c'est des machines à cash flow. Si vous avez reçu régulièrement votre facture Swisscom, vous êtes au courant qu'ils vous arnaquent soigneusement sur les prix. Donc, au niveau du cash flow, ça rigole. Donc, ça devrait pouvoir continuer à aller relativement bien. Mais c'est vrai que l'intégration de Vodafone Italia, qui avait été quand même saluée au moment de l'achat, aujourd'hui se retrouve un peu en question. En vrac, Santhera a conclu un accord avec GKV-SV qui représente les intérêts des caisses maladies en Allemagne sur le remboursement de son médicament, le Lagamré, qui est le Vamorolone pour le traitement de la myopathie du chêne. La Banque cantonale vaudoise a annoncé un bénéfice en baisse pour l'exercice 2024. Un bénéfice en baisse qui est justifié par un environnement de taux d'intérêt moins favorable et par une année 2023 qui était record. Donc, souffert un peu de la comparaison. La direction s'est dite confiante pour l'année en cours, rassurée par sa performance sur le long terme et par la résilience des économies vaudoises et suisses. Idorsia continue de baisser. Le laboratoire en difficulté va faire une proposition aux détenteurs de titres de la dette arrivée à échéance le 17 janvier dernier. Le groupe voudrait obtenir un report de 8 mois de l'échéance de cet emprunt convertible au 17 septembre en échange d'une majoration de 2% sur les intérêts. Bell baissait en fin de semaine après avoir dévoilé ses résultats 2024. Si les ventes sont restées solides, le tableau est moins rose du point de vue de la rentabilité. Et puis sur le marché élargi, Leonteq a terminé la semaine en plein délire, alors que la semaine dernière, on parlait d'eux au fond du trou, après les chiffres trimestriels et leur déboire avec la FINMA. Les turbulences que traverse le spécialiste des produits structurés ont eu raison de la candidature du patron démissionnaire, Luca Rufflin, au conseil d'administration. Et donc les actionnaires qui n'étaient pas contents pour la performance du titre lui ont barré la route et du coup, ça a plu au marché. Le titre prenait 15% vendredi soir. Fort rebond également pour Vetropack après un relèvement de sa recommandation à l'achat désormais et de son objectif de cours par Berenberg. Les débouchés sont stables et l'ancien site pourra être vendu à prix d'or. On notera aussi QBS a downgradé Novartis cette semaine, que DZ Bank a upgradé l'objectif de Nestlé un franc plus haut. C'est du délire. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous dis à propos de Roche depuis des mois, mais je reprends quand même l'histoire de Roche, hein, depuis le mois d'avril 2022. En ce temps-là, le bon Roche est au plus haut de tous les temps, et tout le monde l'adore, et elle a fait un max de fric pendant le Covid, bref, ça rigole. Et puis, UBS se pointe et décide de downgrader le titre de buy à neutre en coupant drastiquement le price target de Roche, et c'est le début du bain de sang. Il faut savoir que l'UBS est quand même énorme en termes de portfolio management, et quand on décide de virer un titre comme Roche, bah, tout le monde les écoute, et donc, il faut liquider les positions et ça met forcément une pression vendeuse sur le titre concerné. Donc le downgrade avait fait plonger le titre. Et depuis des mois, je vous dis qu'il faut quand même commencer à racheter le bon Roche pour jouer le jour où UBS reviendra sur achat et que ses portfolio managers vont tous devoir racheter, sans compter qu'entre deux, l'UBS n'est plus l'UBS, mais c'est UBS plus Crédit Suisse. Et devinez quoi, ce jeudi 13 février, UBS indique avoir relevé sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours rehaussé de 300 à 338 francs suisses. Le titre devient par ailleurs sa valeur préférée au sein du secteur pharmaceutique suisse. Bam ! Et voilà, ça a mordu. Il n'y a plus qu'à attendre. On a downgradé Novartis en début de semaine chez UBS. On fait de la place dans les comptes et on va venir gentiment racheter du bon Roche. On verra si ça se confirme, mais Roche est de retour dans le grand bain et ça n'est sûrement pas terminé. Voilà, en tout cas, cette fois, dans cette histoire, je pourrais dire, je vous l'avais dit. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine longue et compliquée qui était bien chargée. La prochaine sera pas mal non plus avec les interventions de Trump, le PIB japonais, le CPI français, les interventions de Trump, les minutes du FOMC meeting, les interventions de Trump, le ZEW et les interventions de Trump et le ZEW en Allemagne, sans compter la paix en Ukraine, la démission de François Bayrou et la probabilité que lundi soit fermé puisque c'est President Day aux États-Unis. Pour le reste, vous connaissez la recette, vous likez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne Suisse en français, vous commentez si vous voulez, nous on se voit lundi matin, oui je sais, les marchés américains seront fermés, mais on trouvera quand même des trucs à raconter. Ce sera un nouveau Morning Bull Live et d'ici là, excellent week-end à tous, profitez bien et à lundi. Bye bye.